Troisième partie. Chapitre 1er. De l'émigration. L'on doit distinguer l'émigration volontaire de l'émigration forcée. Après le renversement du trône en 1792, lorsque le règne de la terreur a commencé, nous avons tous émigré pour nous soustraire aux périls dont chacun était menacé. Ce n'était pas un des moindres crimes du gouvernement d'alors que d'avoir considéré comme coupables ceux qui ne s'éloignaient de leur foyer que pour échapper à l'assassinat populaire ou juridique, et d'avoir compris dans leur proscription non seulement les hommes en état de porter les armes, mais le vieillard, les femmes, les enfants même. L'émigration de 1791, au contraire, n'étant provoquée par aucun genre de danger, doit être considérée comme une résolution de parti, et sous ce rapport, on peut la juger d'après les principes de la politique. Au moment où le roi fut arrêté à Varennes et ramené captif à Paris, un grand nombre de nobles se déterminèrent à quitter leur pays pour réclamer le secours des puissances étrangères et pour les engager à réprimer la révolution par les armes. Les premiers émigrés obligèrent les gentilshommes restés en France à les suivre. Ils leur commandèrent ce sacrifice au nom d'un genre d'honneur qui tient à l'esprit de corps, et l'on vit la caste des privilégiés français couvrir les grandes routes pour se rendre au camp des étrangers, sur la rive ennemie. La postérité prononcera, je crois, que la noblesse, en cette occasion, s'écarta des vrais principes qui servent de base à l'union sociale. En supposant que les gentilshommes n'eussent pas mieux fait de s'associer dès l'origine aux institutions que nécessitaient les progrès des Lumières et l'accroissement du tiers-État. Du moins, 10 000 nobles de plus autour du roi auraient peut-être empêché qu'il ne fût détrôné. Mais sans se perdre dans des suppositions qui peuvent toujours être contestées, il y a des devoirs inflexibles en politique comme en morale. Et le premier de tous, c'est de ne jamais livrer son pays aux étrangers, lors même qu'ils s'offrent pour appuyer avec leurs armées le système qu'on regarde comme le meilleur. Un parti se croit le seul vertueux, le seul légitime. Un autre, le seul national, le seul patriote. Comment décider entre eux? Était-ce un jugement de Dieu pour les Français que le triomphe des troupes étrangères? Le jugement de Dieu, dit le proverbe, c'est la voix du peuple. Quand une guerre civile eût été nécessaire pour mesurer les forces et manifester la majorité, la nation en serait devenue plus grande à ses propres yeux comme à ceux de ses rivaux. Les chefs de la Vendée inspirent 1000 fois plus de respect que ceux d'entre les Français qui ont excité les diverses coalitions de l'Europe contre leur patrie. On ne saurait triompher dans la guerre civile qu'à l'aide du courage, de l'énergie ou de la justice. C'est aux facultés de l'âme qu'appartient le succès dans une telle lutte. Mais pour attirer les puissances étrangères dans son pays, une intrigue, un hasard, une relation avec un général ou avec un ministre en faveur peuvent suffire. De tout temps, les émigrés se sont joués de l'indépendance de leur patrie. Ils la veulent comme un jaloux sa maîtresse, morte ou fidèle. Et l'arme avec laquelle ils croient combattre les factieux s'échappe souvent de leurs mains et frappe d'un coup mortel le pays même qu'ils prétendaient sauver. Les nobles de France se considèrent malheureusement plutôt comme les compatriotes des nobles de tous les pays que comme les concitoyens des Français. D'après leur manière de voir, la race des anciens conquérants de l'Europe se doit mutuellement des secours d'un empire à l'autre. Mais les nations, au contraire, se sentant un tout homogène, veulent disposer de leur sort. Et depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les peuples libres ou seulement fiers n'ont jamais supporté sans frémir l'intervention des gouvernements étrangers dans leurs querelles intestines. Des circonstances particulières à l'histoire de France y ont séparé les privilégiés et le tiers-État d'une manière plus prononcée que dans aucun autre pays de l'Europe. L'urbanité des mœurs cachait les divisions politiques. Mais les privilèges pécuniaires, le nombre des emplois donnés exclusivement aux nobles, l'inégalité dans l'application des lois, l'étiquette des cours, tout l'héritage des droits de conquête traduits en faveurs arbitraires. On crée en France, pour ainsi dire, deux nations dans une seule. En conséquence, les nobles émigrés ont voulu traiter la presque totalité du peuple français comme des vassaux révoltés. Et loin de rester dans leur pays, soit pour triompher de l'opinion dominante, soit pour s'y réunir, ils ont trouvé plus simple d'invoquer la gendarmerie européenne afin de mettre Paris à la raison. C'était, disaient-ils, pour délivrer la majorité du joug d'une minorité factieuse, qu'on recourait aux armes des alliés voisins. Une nation qui aurait besoin des étrangers pour s'affranchir d'un joug quelconque serait tellement avilie qu'aucune vertu ne pourrait de longtemps s'y développer. Elle rougirait de ses oppresseurs et de ses libérateurs tout ensemble. Henri IV, il est vrai, admit des corps étrangers dans son armée, mais il les avait comme auxiliaires et ne dépendait point d'eux. Il opposait des Anglais et des Allemands protestants aux ligueurs dominées par les catholiques espagnols. Mais toujours, il était entouré d'une force française assez considérable pour être le maître de ses alliés. En 1791, le système de l'émigration était faux et condamnable, car une poignée de Français se perdait au milieu de toutes les baïonnettes de l'Europe. Il y avait d'ailleurs encore beaucoup de moyens de s'entendre en France, entre soi. Des hommes très estimables étaient à la tête du gouvernement. Des erreurs en politique pouvaient être réparées. Et les meurtres judiciaires n'avaient point encore été commis. Loin que l'émigration ait maintenu la considération de la noblesse, elle y a porté la plus forte atteinte. Une génération nouvelle s'est élevée pendant l'absence des gentilshommes. Et comme cette génération a vécu, prospéré, triomphé sans les privilégiés, elle croit encore pouvoir exister par elle-même. Les émigrés, d'autre part, vivant toujours dans le même cercle, se sont persuadés que tout était rébellion hors de leurs anciennes habitudes. Ils ont pris ainsi par degrés le même genre d'inflexibilité qu'ont les prêtres. Toutes les traditions politiques sont devenues à leurs yeux des articles de foi. Ils se sont fait des dogmes, des abus. Leur attachement à la famille royale, dans son malheur, est très digne de respect. Mais pourquoi faire consister cet attachement dans la haine des institutions libres et l'amour du pouvoir absolu? Et pourquoi repousser le raisonnement en politique comme s'il s'agissait des saints mystères et non pas des affaires humaines? En 1791, le parti des aristocrates s'est séparé de la nation, de fait et de droit, d'une part en s'éloignant de France, et de l'autre en ne reconnaissant pas que la volonté d'un grand peuple doit être de quelque chose dans le choix de son gouvernement. « Qu'est-ce que cela signifie, des nations ?» répétait-il sans cesse. « Il faut des armées. » « Mais les armées ne font-elles pas partie des nations ? Tôt ou tard, l'opinion ne pénètre-t-elle pas aussi dans les rangs mêmes des soldats ? Et de quelle manière peut-on étouffer ce qui anime maintenant tous les pays éclairés ? La connaissance libre et réfléchie des intérêts et des droits de tous. Les émigrés ont dû se convaincre, par leurs propres sentiments, dans différentes circonstances, que le parti qu'ils avaient pris était digne de blâme. Mais quand ils se trouvaient au milieu des uniformes étrangers, quand ils entendaient les langues germaniques, dont aucun son ne leur rappelait les souvenirs de leur vie passée, pouvaient-ils se croire encore sans reproche ? Ne voyaient-ils pas la France tout entière se défendant sur l'autre bord ? N'éprouvaient-ils pas une insupportable douleur en reconnaissant les airs nationaux, les accents de leur province, dans le camp qu'il fallait appeler ennemi ? Combien d'entre eux ne se sont pas retournés tristement vers les Allemands, vers les Anglais, vers tant d'autres peuples qu'on leur ordonnait de considérer comme leurs alliés ? Ah ! L'on ne peut transporter ces dieux pénates dans les foyers des étrangers. Les émigrés, lors même qu'ils faisaient la guerre à la France, ont souvent été fiers des victoires de leurs compatriotes. Ils étaient battus comme émigrés, mais ils triomphaient comme Français, et la joie qu'ils en ressentaient était la noble inconséquence des cœurs généreux. Jacques II s'écriait à la bataille de la Hogue pendant la défaite de la flotte française, qui soutenait sa propre cause contre l'Angleterre. « Comme mes braves Anglais se battent !» Et ce sentiment lui donnait plus de droit au trône qu'aucun des arguments employés pour l'y maintenir. En effet, l'amour de la patrie est indestructible, comme toutes les affections sur lesquelles nos premiers devoirs sont fondés. Souvent, une longue absence ou des querelles de parti ont brisé toutes vos relations. Vous ne connaissez plus personne dans cette patrie qui est la vôtre. Mais à son nom, mais à son aspect, tout votre cœur est ému. Et loin qu'il faille combattre de telles impressions comme des chimères, elles doivent servir de guide à l'homme vertueux. Plusieurs écrivains politiques ont accusé l'émigration de tous les maux arrivés à la France. Il n'est pas juste de s'en prendre aux erreurs d'un parti des crimes de l'autre. Mais il paraît démontré néanmoins qu'une crise démocratique est devenue beaucoup plus probable quand tous les hommes employés dans la monarchie ancienne et qui pouvaient servir à recomposer la nouvelle, s'ils l'avaient voulu, ont abandonné leur pays. L'égalité s'offrant alors de toutes parts, les hommes passionnés se sont trop abandonnés au torrent démocratique, et le peuple, ne voyant plus la royauté que dans le roi, a cru qu'il suffisait de renverser un homme pour fonder une république. Chapitre 2. Prédiction de M. Necker sur le sort de la Constitution de 1791. Pendant les 14 dernières années de sa vie, M. Necker ne s'est pas éloigné de sa terre de Copé, en Suisse. Il a vécu dans la retraite la plus absolue. Mais le repos, qui naît de la dignité, n'exclut pas l'activité de l'esprit. Aussi ne cessa-t-il point de suivre, avec la plus grande sollicitude, chaque événement qui se passait en France. Et les ouvrages qu'il a composés à différentes époques de la Révolution ont un caractère de prophétie, parce qu'en examinant les défauts des constitutions diverses qui ont régi momentanément la France, il annonçait d'avance les conséquences de ces défauts. Et ce genre de prédiction ne saurait manquer de se réaliser. M. Necker joignait à l'étonnante sagacité de son esprit une sensibilité pour le sort de l'espèce humaine, et de la France en particulier, dont il n'y a eu d'exemple, je crois, dans aucun publiciste. On traite d'ordinaire la politique d'une manière abstraite, et en la fondant presque toujours sur le calcul. Mais M. Necker s'est surtout occupé des rapports de cette science avec la morale individuelle, le bonheur et la dignité des nations. C'est le Fénelon de la politique, si j'ose m'exprimer ainsi, en honorant ces deux grands hommes par l'analogie de leurs vertus. Le premier ouvrage qu'il publia en 1791 est intitulé « De l'administration de M. Necker par lui-même ». À la suite d'une discussion politique très approfondie sur les diverses compensations que l'on aurait dû accorder aux privilégiés pour la perte de leurs anciens droits, il dit, en s'adressant à l'Assemblée, guillemets, « Je l'entends, on me reprochera mon attachement obstiné au principe de la justice, et l'on essayera de le déprimer en y donnant le nom de pitié aristocratique. Je sais mieux que vous de quelle sorte est la mienne. C'est pour vous les premiers que j'ai connu ce sentiment d'intérêt. Mais alors vous étiez sans union et sans force. C'est pour vous les premiers que j'ai combattu. Et dans le temps où je me plaignais si fortement de l'indifférence qu'on vous témoignait, lorsque je parlais des égards qui vous étaient dus, lorsque je montrais une inquiétude continuelle sur le sort du peuple, c'était aussi par jeu de mots qu'on cherchait à ridiculiser mes sentiments. Je voudrais bien en aimer d'autres que vous, lorsque vous m'abandonnez. Je voudrais bien le pouvoir, mais je n'ai pas cette consolation. Vos ennemis et les miens ont mis entre eux et moi une barrière que je ne chercherai jamais à rompre. ils doivent me haïr toujours, puisqu'ils m'ont rendu responsable de leur propre faute. Ce n'est pas moi, cependant, qui les ai encouragés à jouir sans mesure de leur ancienne puissance, et ce n'est pas moi qui les ai rendus inflexibles lorsqu'il fallait commencer à traiter avec la fortune. Ah ! S'ils n'étaient pas malheureux, combien de reproches n'aurais-je pas à leur faire ? Aussi, quand je les défends encore dans leurs droits et leurs propriétés, ils ne croiront pas, je l'espère, que je songe un instant à les regarder. Je ne veux aujourd'hui ni d'eux ni de personne. C'est de mes souvenirs, de mes pensées, que je cherche à vivre et à mourir. Quand je fixe mon attention sur la pureté des sentiments qui m'ont guidé, je ne trouve nulle part une association qui me convienne. Et dans le besoin cependant que toute âme sensible en éprouve, je la forme cette association. Je la forme en espérance avec les hommes honnêtes de tous les pays, avec ceux, en si petit nombre, dont la première passion est l'amour du bien sur cette terre. Fin des guillemets. M. Necker regrettait amèrement cette popularité qu'il avait, sans hésiter, sacrifiée à ses devoirs. Quelques personnes lui ont fait un tort du prix qu'il y attachait. Malheur aux hommes d'État qui n'ont pas besoin de l'opinion publique. Ce sont des courtisans ou des usurpateurs. Ils se flattent d'obtenir, par l'intrigue ou par la terreur, ce que les caractères généreux ne veulent devoir qu'à l'estime de leurs semblables. En nous promenant ensemble, mon père et moi, sous ces grands arbres de copaix, qui me semblent encore des témoins amis de ces nobles pensées, il me demanda une fois si je croyais que toute la France partagea les soupçons populaires dont il avait été la victime dans sa route de Paris en Suisse. Il me semble, me disait-il, que dans quelques provinces ils ont reconnu jusqu'au dernier jour la pureté de mes intentions et de mon attachement à la France. À peine m'eut-il adressé cette question qu'il craignait d'être trop attendri par ma réponse. « N'en parlons plus, dit-il. Dieu lit dans mon cœur, c'est assez. » Je n'osais pas, ce jour-là même, le rassurer, tant je voyais d'émotions contenues dans tout son être. Ah ! Que les ennemis d'un tel homme doivent être durs et bornés. C'est à lui qu'il fallait adresser ces paroles de Ben Jonson, en parlant de son illustre ami, le chancelier d'Angleterre. « Je prie Dieu qu'il vous donne de la force dans votre adversité, car, pour la grandeur, vous n'en sauriez manquer. » M. Necker, au moment où le Parti démocratique, alors tout-puissant, lui faisait des propositions de rapprochement, s'exprimait avec la plus grande force sur la funeste situation à laquelle on avait réduit l'autorité royale. Et quoiqu'il crût peut-être trop à l'ascendant de la morale et de l'éloquence, dans un temps où l'on commençait à ne s'occuper que de l'intérêt personnel, il se servait mieux que personne de l'ironie et du raisonnement, quand il le jugeait à propos. J'en vais citer un exemple entre plusieurs. Guillemets. J'oserais le dire, la hiérarchie politique établie par l'Assemblée nationale semblait exiger, plus qu'aucune autre ordonnance sociale, l'intervention efficace du monarque. Cette auguste médiation pouvait seule, peut-être, conserver les distances entre tant de pouvoirs qui se rapprochent, entre tant d'élus à titre pareil, entre tant de dignitaires égaux par leur premier état, et si près encore les uns des autres par la nature de leurs fonctions et la mobilité de leur place. Elle seule pouvait vivifier, en quelque manière, les gradations abstraites et toutes constitutionnelles qui doivent composer dorénavant l'échelle des subordinations. Je vois bien des assemblées primaires qui nomment un corps électoral. Ce corps électoral qui choisit des députés à l'Assemblée nationale. Cette assemblée qui rend des décrets et demande au roi de les sanctionner et de les promulguer. Le roi qui les adresse aux départements. Les départements qui les transmettent aux districts. Les districts qui donnent des ordres aux municipalités. Les municipalités qui, pour l'exécution de ces décrets, requièrent au besoin l'assistance des gardes nationales. Les gardes nationales qui doivent contenir le peuple. Le peuple qui doit obéir. L'on aperçoit dans cette succession un ordre de numéros auquel il n'y a rien à redire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout se suit dans la perfection. Mais en gouvernement, mais en obéissance, c'est par la liaison, c'est par le rapport moral des différentes autorités que l'ordre général se maintient. Le législateur aurait une fonction trop aisée si, pour opérer cette grande œuvre politique, la soumission du grand nombre à la sagesse de quelques-uns, il lui suffisait de conjuguer le verbe « commander » et de dire, comme au collège, « je commanderai », « tu commanderas », « il commandera », « nous commanderons », etc. Il faut nécessairement, pour établir une subordination effective et pour assurer le jeu de toutes les parties ascendantes et descendantes, qu'il y ait entre toutes les supériorités de convention une gradation proportionnelle de considération et de respect. Il faut, de rang en rang, une distinction qui impose, et au sommet de ces dégradations, il faut un pouvoir qui, par un mélange de réalité et d'imagination, influe par son action sur l'ensemble de la hiérarchie politique. Il n'est point de pays où les distinctions d'État soient plus effacées que sous le gouvernement despote des califes de l'Orient. Mais nulle part aussi, les châtiments ne sont plus rapides, plus sévères et plus multipliés. Les chefs de la justice et de l'administration y ont une décoration qui suffit à tout. C'est le cortège des janissaires, des muets et des bourreaux. Fin des guillemets. Ces derniers paragraphes se rapportent à la nécessité d'un corps aristocratique, c'est-à-dire d'une chambre des pairs, pour maintenir une monarchie. Pendant son dernier ministère, M. Necker avait défendu les principes du gouvernement anglais, successivement contre le roi, les nobles et les représentants du peuple, à l'époque où chacune de ces autorités avait été la plus forte. Il continua le même rôle comme écrivain et il combattit dans ses ouvrages l'Assemblée constituante, la Convention, le Directoire et Bonaparte, tous les quatre au fait de leur prospérité, opposant à tous les mêmes principes et leur annonçant qu'ils se perdaient même en atteignant leur but, parce qu'en fait de politique, ce qui égare le plus les corps et les individus, c'est le triomphe que l'on peut momentanément remporter sur la justice. Ce triomphe finit toujours par renverser ceux qui l'obtiennent. M. Necker, qui jugeait la Constitution de 1791 en homme d'État, publia son opinion sur ce sujet sous la première Assemblée, lorsque cette Constitution inspirait encore un grand enthousiasme. Son ouvrage intitulé « Du pouvoir exécutif dans les grands États » est reconnu pour classique par les penseurs. Il contient des idées très nouvelles sur la force nécessaire au gouvernement en général. Mais ces réflexions sont d'abord spécialement appliquées à l'ordre de choses que l'Assemblée constituante venait de proclamer. Dans ce livre, plus encore que dans le précédent, l'on pourrait prendre les prédictions pour une histoire. Tant les événements que les défauts des institutions devaient amener y sont détaillés avec précision et clarté. M. Necker, en comparant la Constitution anglaise avec l'œuvre de l'Assemblée constituante, finit par ces paroles remarquables. « Les Français regretteront trop tard de n'avoir pas eu plus de respect pour l'expérience et d'avoir méconnu sa noble origine sous ses vêtements usés et déchirés par le temps. » Il prédit dans le même livre la terreur qui allait naître du pouvoir des Jacobins et, chose plus remarquable encore, la terreur qui naîtrait après eux par l'établissement du despotisme militaire. Il ne suffisait pas à un publiciste tel que M. Necker de présenter le tableau de tous les malheurs qui résulteraient de la Constitution de 1791. Il devait encore donner à l'Assemblée législative des conseils pour y échapper. L'Assemblée constituante avait décrété plus de 300 articles, auxquels aucune des législatures suivantes n'avait le droit de toucher qu'à des conditions qu'il était presque impossible de réunir. Et cependant, parmi ces articles immuables, se trouvait le mode adopté pour nommer à des places inférieures et autre chose d'aussi peu d'importance. De manière qu'il ne serait ni plus facile ni moins difficile de changer en république la monarchie française que de modifier les plus indifférents de tous les détails compris, on ne sait pourquoi, dans l'acte constitutionnel. Il me semble, dit ailleurs M. Necker, que dans un grand État, on ne peut vouloir la liberté et renoncer en aucun temps aux conditions suivantes. Premièrement, l'attribution exclusive du droit législatif aux représentants de la nation, sous une sanction du monarque. Et dans ce droit législatif se trouve compris, sans exception, le choix et l'établissement des impôts. Deuxièmement, la fixation des dépenses publiques par la même autorité. Et à ce droit se rapporte évidemment la détermination des forces militaires. Troisièmement, la reddition de tous les comptes de recettes et de dépenses par devant les commissaires des représentants de la nation. Quatrièmement, le renouvellement annuel des pouvoirs nécessaires pour la levée des contributions. En acceptant de cette condition, les impôts hypothéqués au paiement des intérêts de la dette publique. Cinquièmement, la proscription de toute espèce d'autorité arbitraire et le droit donné à tous les citoyens d'intenter une action civile ou criminelle contre tous les officiers publics qui auraient abusé envers eux de leur pouvoir. Sixièmement, l'interdiction aux officiers militaires d'agir dans l'intérieur du royaume sans la réquisition des officiers civils. Septièmement, le renouvellement annuel par le corps législatif des lois qui constituent la discipline et par conséquent l'action et la force de l'armée. Huitièmement, la liberté de la presse étendue jusqu'au degré compatible avec la morale et la tranquillité publique. Neuvièmement, l'égale répartition des charges publiques et l'aptitude légale de tous les citoyens à l'exercice des fonctions publiques. Dixièmement, la responsabilité des ministres et des premiers agents du gouvernement. Onzièmement, l'hérédité du trône afin de prévenir les factions et de conserver la tranquillité de l'État. Douzièmement, l'attribution pleine et entière du pouvoir exécutif au monarque, avec tous les moyens nécessaires pour l'exercer, afin d'assurer ainsi l'ordre public, afin d'empêcher que tous les pouvoirs rassemblés dans le corps législatif n'introduisent un despotisme non moins oppresseur que tout autre. On devrait ajouter à ces principes le respect le plus absolu pour les droits de propriété, si ce respect ne composait pas un des éléments de la morale universelle, sous quelque forme de gouvernement que les hommes soient réunis. Les 12 articles que je viens d'indiquer présentent à tous les hommes éclairés les bases fondamentales de la liberté civile et politique d'une nation. Il fallait donc les placer hors de ligne dans l'acte constitutionnel, et l'on ne devait pas les confondre avec les nombreuses dispositions que l'on voulait soumettre à un renouvellement continuel de discussion. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? C'est qu'en assignant à ces articles une place marquée dans la charte constitutionnelle, on eût montré distinctement deux vérités que l'on voulait obscurcir. L'une, que les principes fondamentaux de la liberté française se trouvaient en entier ou dans le texte ou dans l'esprit de la déclaration que le monarque avait faite le 27 décembre 1788 et dans ses explications subséquentes. L'autre, que tous les ordres de l'État, que toutes les classes de citoyens, après un premier temps d'incertitude et d'agitation, auraient fini vraisemblablement par donner leur assentiment à ces mêmes principes, et l'y donneraient peut-être encore s'ils étaient appelés à le faire. On les a vus reparaître, ces articles, qui constituent l'évangile social, sous une forme à peu près semblable, dans la déclaration du 2 mai, datée de Saint-Ouen, par Sa Majesté Louis XVIII, et dans une autre circonstance dont nous aurons occasion de parler plus tard. Depuis le 27 décembre 1788 jusqu'au 8 juillet 1815, voilà ce que les Français ont voulu quand ils ont pu vouloir. Le livre, du pouvoir exécutif dans les grands États est le meilleur guide que puissent prendre les hommes appelés à faire ou à modifier une constitution quelconque. Car c'est, pour ainsi dire, la carte politique où tous les dangers qui se présentent sur la route de la liberté sont signalés. À la tête de cet ouvrage, M. Necker s'adresse ainsi aux Français. Il me souvient du temps où, en publiant le résultat de mes longues réflexions sur les finances de la France, j'écrivais ces paroles. Oui, nation généreuse, c'est à vous que je consacre cet ouvrage. Hélas, qui me l'eût dit que, dans la révolution d'un si petit nombre d'années, le moment arriverait où je ne pourrais plus me servir des mêmes expressions, et où j'aurais besoin de tourner mes regards vers d'autres nations pour avoir de nouveau le courage de parler de justice et de morale. Ah ! Pourquoi ne m'est-il pas permis de dire aujourd'hui « C'est à vous que j'adresse cet ouvrage, à vous, nation plus généreuse encore, depuis que la liberté a développé votre caractère et l'a dégagé de toutes ses gênes ? À vous, nation plus généreuse encore, depuis que votre front ne porte plus l'empreinte d'aucun joug ? À vous, nation plus généreuse encore, depuis que vous avez fait l'épreuve de vos forces et que vous dictez vous-même les lois auxquelles vous obéissez ? Ah, que j'aurais tenu ce langage avec délices ! Mon sentiment existe encore, mais il me semble errant, il me semble en exil, et dans mes tristes regrets, je ne puis ni contracter de nouveaux liens, ni reprendre, même en espérance, l'idée favorite et l'unique passion dont mon âme fut si longtemps remplie. Fin des guillemets. Je ne sais, mais il me semble que jamais on n'a mieux exprimé ce que nous sentons tous. Cet amour pour la France qui fait tant de mal à présent, tandis qu'autrefois il n'était point de jouissance plus noble ni plus douce.